Horizon Tech by ENI, le podcast de ceux qui font la tech d'aujourd'hui et feront la tech de demain. Si vous aimez la tech, vous aimerez les histoires de nos invités. Qu'ils soient chefs d'entreprise, étudiants, formateurs ou auteurs, ce podcast vous permettra de découvrir pourquoi ils et elles sont devenus des acteurs de la tech. Chaque mardi, un nouvel épisode sera disponible sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Ce podcast est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et à le partager sur vos réseaux sociaux. Horizon Tech by ENI. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Horizon Tech by ENI. Aujourd'hui, je reçois une docteure en informatique spécialisée base de données et intelligence artificielle, également formatrice enseignante à ENI École. J'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Leguilly. Bonjour Marie.
Bonjour Eric.
Alors, je viens de te présenter une carrière étudiante déjà bien remplie, avec beaucoup de centres d'intérêt. Quand on préparait ce podcast, on parlait un peu de ce que tu faisais. Tu es formatrice, donc enseignante à l'ENI sur le Java, la base de données, les bases de programmation, également sur notre cursus ingénieur en lien avec 3IL, mais tu es également une spécialiste de l'intelligence artificielle. Quel parcours, quel début de parcours dans la vie professionnelle? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à avoir tous ces centres d'intérêt et déjà à la base, l'informatique? Comment tu es venu à l'informatique?
Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, ça fait pas mal de casquettes. L'informatique, je suis tombée dedans un petit peu par hasard, j'ai envie de dire, après le bac. J'ai choisi une école d'ingénieur, donc avec une prépa intégrée, c'est-à-dire que je partais pour 5 ans d'études, et moi, à la base, je partais pour faire du génie civil, donc travailler sur les bâtiments, etc. Et j'avais, dès la première année, des cours d'informatique où je me suis dit, oula, moi, j'ai jamais fait d'informatique, je vais me retrouver avec des gars qui en font depuis la maternelle dans leur sous-sol, etc. Je sentais que ça allait pas être une matière pour moi. Et finalement, ça a été une révélation. Je me suis sentie hyper à l'aise dans cette matière. Je la travaillais, mais avec beaucoup de plaisir, ça me plaisait énormément. Et du coup, au fur et à mesure, au moment où est venu le temps de choisir ma spécialité, je me suis dit, mais finalement, je vais peut-être choisir la spécialité dans laquelle je me sens le plus à l'aise, où j'adore passer du temps. Et c'est là où je me suis dirigée, du coup, vers l'informatique.
Au départ, c'est quoi dans l'informatique qui te passionnait? Tu étais déjà côté base de données. Alors, l'intelligence artificielle n'avait pas encore la place qu'elle a aujourd'hui. Mais c'était la programmation. Qu'est-ce qui t'attirait dans le domaine informatique en général?
C'était vraiment la programmation. C'est ce par quoi j'ai commencé l'informatique, avec le langage Java déjà à l'époque. Et vraiment l'aspect logique et pouvoir créer en fait que je voulais à partir du moment où j'arrivais à implémenter la logique et trouver la suite d'instructions qui faisait ce que je voulais. Je trouvais ça assez magique. Il y avait un côté vraiment logique. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup les mathématiques, donc j'avais l'impression de pouvoir retrouver l'aspect très rangé, cadré des mathématiques, mais en l'appliquant à quelque chose de concret et qui produisait quelque chose à la fin d'utile et d'utilisable par d'autres personnes.
Après ton cycle d'ingénieur, donc, tu as décidé de continuer pour un doctorat. Quelle spécialité tu as pris dans ton doctorat? Ta thèse parlait de quoi exactement?
Alors, le titre exact de ma thèse, c'est Data Selection for Predictive Models. Donc, c'était la sélection de données pour les modèles prédictifs. C'est un sujet, le titre est arrivé au bout des 3 ans de thèse. Hein. Au début, je partais parce que je m'entendais bien avec mes encadrants et on avait commencé sur un stage à travailler sur cette intersection entre les bases de données et l'intelligence artificielle, qui sont deux domaines qui me plaisent énormément. Et du coup, on est arrivé à parler de ça. Donc, les modèles prédictifs, c'est vraiment un sous-domaine de l'IA. Je dis intelligence artificielle parce que ça parle à tout le monde. Mais forcément, une thèse, c'est toujours quelque chose d'extrêmement spécifique sur un tout petit sujet qu'on creuse un tout petit peu pendant 3 ans. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est dessiné tout ça. Et cette idée de, en fait, on fait de l'intelligence, enfin, on veut faire des modèles d'intelligence artificielle, tout le monde veut se lancer dedans, enfin, je pense qu'actuellement, il n'y a pas une entreprise qui ne se dit pas, faut qu'on aille sur le créneau. On a plein de données, mais on ne sait pas forcément encore correctement les exploiter ou comment bien extraire les bonnes données pertinentes pour faire les modèles d'IA dont on a besoin. Et donc, c'était un peu ça le but général de mes recherches.
De l'extérieur, moi, quand je rencontre un docteur, je suis toujours un peu fasciné. Qu'est-ce que tu retires de ces 3 années de doctorat? Comment ça se passe à l'intérieur? C'est quoi l'atmosphère entre la recherche, entre le rapport avec les personnes qui t'accompagnent, Je suppose que plus la thèse se rapproche et peut-être plus le stress augmente parce que c'est quand même un gros travail. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est que 3 années de doctorat en informatique?
Oui, alors c'est 3 très longues années. Alors après, moi, j'ai fait 3 ans, mais en plus, 3 ans, c'est le minimum. Il faut savoir que des fois, ça se prolonge au-delà. Pour résumer, je dirais que c'est quand même beaucoup de hauts et de bas. On part avec beaucoup d'enthousiasme, on doute, on se dit qu'on n'y arrivera pas, qu'on veut abandonner, et puis après, on reprend, etc. Parce que c'est beaucoup de stress quand même. À la fin, on veut obtenir le diplôme, mais il faut beaucoup travailler pour ça. C'est particulier parce que de l'extérieur, les gens pensent qu'on est encore en études, mais finalement, c'est un travail à temps plein de recherche, éventuellement d'enseignement. Moi, j'enseignais aussi quelques heures par semaine à côté. Et tout le but, en fait, c'est d'essayer de creuser un petit sujet, de créer une toute petite niche nouvelle que personne n'a encore été vraiment regardée, faire des recherches là-dessus. Et le plus gros enjeu, dont je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur, ça va être de publier dans la recherche, c'est-à-dire d'écrire un papier scientifique, souvent c'est une douzaine de pages, qui explique ce qu'on a fait. Il faut convaincre la communauté, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur le même sujet, que c'est pertinent et que ça vaut le coup d'être publié pour être lu par d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose de très concurrentiel parce que tout le monde veut publier et dire que sa recherche est la plus pertinente. Or, donc on postule, enfin, il y a tout un système derrière, on soumet son papier qui est relu par des pairs, donc des personnes qui travaillent sur le même sujet, qui vont dire généralement, au premier coup, non, c'est il faut retravailler, donc on retravaille, on réessaye de publier, et c'est ça vraiment l'essentiel de la thèse, c'est essayer de faire des recherches et de les mettre en valeur pour réussir à les publier à la fin.
On reviendra sur le sujet de l'IA un petit peu plus tard dans l'épisode. Tu disais pendant ton doctorat, tu t'enseignais aussi. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de continuer à enseigner, être formatrice et telle que tu peux l'être aujourd'hui à l'ENI École?
Tout à fait. Moi, je pense que j'ai toujours su au fond de moi que je voulais faire de l'enseignement. Alors, c'est un peu cliché, mais déjà toute petite, moi, je préférais, c'était de jouer à la maîtresse d'école. Et en grandissant, c'est toujours quelque chose qui m'a animée. Enfin, j'ai même pensé des fois à me dire, je vais passer le CAPES de maths. Enfin, c'est vraiment une fibre que j'avais au fond de moi. Et déjà pendant le doctorat, je me disais, c'est chouette parce que je vais pouvoir tester un peu ça en conditions réelles, aller vraiment donner des cours, etc. Et au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place pour moi, dans le sens où c'était les heures où j'enseignais, c'était vraiment des heures que j'attendais avec impatience, qui me motivaient pour tenir ma semaine, j'avais envie de m'impliquer dans les projets pédagogiques, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là, effectivement, je me suis dit, mais en fait, faut peut-être que j'arrête de voir ça comme un projet à côté, mais que vraiment, si ça me plaît tant que ça, faut peut-être que je me lance à fond là-dessus.
Et qu'est-ce qui te plaît justement? C'est quoi cette fibre enseignante, formatrice? C'est d'amener des étudiants d'un point A à un point B grâce à ta pédagogie, grâce aux apports à tes connaissances. C'est quoi exactement qui te fait vibrer quand tu enseignes?
Moi, c'est de toujours devoir me creuser la tête pour me dire, cette notion qui est hyper claire dans ma tête, comment est-ce que j'arrive à créer quelque chose pour la transmettre à quelqu'un? Parce que déjà, ça me force moi à être hyper claire sur ce que je veux enseigner, donc ça me force moi à bien creuser mes connaissances, etc. Donc c'est toujours intéressant. Et surtout, cet aspect de chaque personne va falloir s'adapter, trouver le moyen de lui transmettre quelque chose. Si ça passe pas, rebondir, créer des supports différents. Enfin, même sur un même cours, à chaque fois qu'on redonne, c'est une expérience différente en fonction des gens en face, et c'est ça qui me plaît beaucoup.
Et du coup, aujourd'hui, on voit l'IA émise à toutes les sauces. On dit partout, l'IA peut vous aider. Première question, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es spécialiste de l'IA? Est-ce que tu t'en sers pour créer tes cours, par exemple, pour les modifier, pour les améliorer?
Non, pas énormément, un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le réflexe, moi, de l'utiliser. Pourtant, je sais que même ChatGPT peut me donner des plans de cours, etc. Après, peut-être aussi parce que là, je suis sur des cours que je crée cette année qui ne demandent pas forcément. Enfin, je donne par exemple un cours de maths cette année, donc à part regarder un manuel de maths, j'ai pas besoin forcément d'aide externe. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher dans les mois à venir, mais c'est pas encore quelque chose que j'ai beaucoup intégré parce que ça prend du temps. Enfin, j'ai mes petits process, je suis un petit être d'habitude, donc j'ai mes trucs qui roulent bien pour l'instant, mais effectivement, il y a plein d'outils. En fait, disons que j'utilise pas l'IA pour créer mes contenus, par contre, j'intègre le fait qu'il y a de l'IA maintenant pour mes élèves, c'est-à-dire leur dire, bah oui, vous faites de la programmation, forcément, c'est que ChatGPT existe et c'est la tentation d'aller juste taper l'énoncé de l'exo et que ChatGPT vous sorte la solution. Donc, j'aborde par contre beaucoup ce bah, comment collaborer avec l'intelligence artificielle dans les concepts que j'enseigne à mes élèves.
C'est vrai qu'on voit beaucoup ça où les étudiants, peut-être des fois un petit peu plus jeunes, même au niveau bachelier, où en fait, ils ont une question, ils font un CTRL-C, CTRL-V dans le ChatGPT et puis ils copient la réponse comme ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est un super assistant qui donne des idées. Comment tu vois, toi, l'évolution de l'IA dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent? Comment tu vois cette intégration qui peut parfois faire peur? Parce qu'on va se dire, bah, est-ce qu'on va continuer à réfléchir par nous-mêmes ou est-ce qu'on va tout déléguer à une IA? C'est quoi ton regard de spécialiste de l'IA sur l'évolution qui va arriver? On le voit quand on voit les rapports financiers des grandes entreprises qui utilisent l'IA, hein, ChatGPT ou Copilot pour Microsoft, etc. Ça augmente de plus en plus. Ça va être une compétence qui va demander à être reconnue dans le futur. Toi, ton regard, il est lequel sur cette IA et l'utilisation qu'on va avoir demain dans notre quotidien d'informaticien ou même plus généralement dans tous les domaines de la vie?
Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que de toute façon, on peut pas ignorer que l'IA est là et a l'air d'être partie pour rester, et que parce que de toute façon, en fait, ça a plein d'applications utiles et on va pas s'en passer alors que ça peut nous aider au quotidien. Donc, je pense que tout l'enjeu des prochains mois, des prochaines années, ça va être d'apprendre à utiliser les IA disponibles pour qu'elles nous aident, qu'elles aient ce rôle d'assistante sur des tâches à faible valeur ajoutée, tout en évitant de se reposer dessus pour des choses où elles vont fournir quelque chose qui serait de qualité moindre. Je pense aussi qu'il y a un peu un fantasme du grand public, je ne sais pas quel mot mettre dessus, mais cette idée que oulala, on va avoir une IA qui va tout faire et tout nous remplacer, etc. Alors qu'au contraire, là, la tendance actuelle, j'ai plus l'impression, c'est de tendre vers plein de petites IA hyper spécialisées sur des sujets spécifiques, et on voit justement avec Copilot, etc., qui vont se mettre sur des points précis, des IA qui vont aider seulement, par exemple, les personnes qui font du développement, ou des IA qui vont se spécialiser sur une thématique. Et du coup, plus elles seront spécialisées, plus elles pourront nous aider précisément et avec justesse sur des tâches précises. Et je pense que c'est cette direction qu'on est en train de prendre.
Est-ce que tu penses que l'IA, dans le futur, ça va être un peu les correcteurs orthographiques et grammaticaux qu'on peut avoir aujourd'hui dans Word, qui, il y a 25 ans, c'était... Bah oui, mais les enfants ne vont plus apprendre à conjuguer, alors ce qui peut être vrai d'une certaine manière, mais aujourd'hui, on ne se pose plus la question. On a Word qui souligne les mots qui ont des fautes, etc. Et ça n'empêche pas qu'on a toujours des gens qui écrivent des textes, qui écrivent des livres et tout ça. Et est-ce que demain, ça va, comme on pourrait le dire, un outil un peu de côté, un side tool qui va nous aider, par exemple, j'ai pas d'idée pour un cours, donne-moi 15 idées sur un cours, et puis une fois que j'ai ces idées, ah ouais, j'y avais pas pensé, je développe mon cours, moi, avec mes compétences, avec mes qualités, et ça va être ce super assistant. Et tu penses que c'est quand même dans cette majorité des cas que ça va être utilisé?
Je pense que ça serait en tout cas ce vers quoi il faudrait tendre. J'espère en fait que ça va aller dans cette direction-là. Parce que, de toute façon, d'un point de vue techniquement parlant, il y a un moment où on va tourner en rond, les IA, elles apprennent aussi de ce que nous, on fournit, etc. Enfin, si on ne fournit plus rien, la créativité, ça ne va pas être trop ça. Et effectivement, de toute façon, et effectivement, l'exemple des correcteurs orthographiques, etc., c'est une bonne comparaison. Les personnes qui ont envie de faire des efforts, etc., et qui se disent, c'est bon, il y a le correcteur, je n'ai pas besoin de repasser, de me relire, de refaire quoi que ce soit. Ils le feront. Et les IA, c'est un peu pareil. Il y a des personnes qui, avant, faisaient leur exposé en copiant-collant depuis deux sites internet et qui réfléchissaient pas plus loin. Elles copient-collant depuis ChatGPT, elles iront pas plus loin. Voilà. Je pense que c'est juste un outil de plus qui est là. Ça serait dommage de s'en passer. Et il faut juste espérer que les personnes qui ont envie de faire un effort et de produire des choses de qualité l'utiliseront de manière intelligente.
Tu vois quand même cette introduction de l'IA, toi, dans ton rôle de formatrice enseignante à l'ENI École, tu vois les étudiants en face qui commencent quand même de plus en plus à peut-être te rendre des copies plus rapidement, et tu vois derrière ce qui te rend le rôle de l'IA, et tu arrives à détecter ça?
J'ai pas encore été confrontée sur des rendus, mais j'ai déjà dû, sur des situations où je donne un exercice à un élève qui l'a fini très rapidement parce qu'il l'a fait sur ChatGPT, etc. Après, si c'est parce que en fait, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait 4 fois et c'est la 5e fois, il avait un peu la flemme de le refaire à la main. Il a utilisé ChatGPT de manière intelligente pour gagner du temps et s'épargner une tâche qu'il connaît parfaitement et il comprend les tenants, les aboutissants. Il gagne du temps, ouais, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'essaye d'intégrer des mises en garde, mais c'est pas pour dire oulala, surtout ne faites pas ça ou quoi, c'est plutôt vraiment toujours pour dire utilisez-le de manière intelligente. Et si je vois effectivement qu'il y a une utilisation trop forte de ChatGPT, bah, j'essaye de dire bah, c'est bien, mais est-ce que tu as bien compris, enfin c'est bien, pas forcément justement, est-ce que tu as bien compris qu'est-ce qui t'a été fourni? Si tu devais adapter un tout petit peu ce qui est fourni à un autre contexte, est-ce que tu en serais capable? Parce que c'est ça aussi, en fait. Une fois qu'on a compris justement les tenants, les aboutissants d'un problème, que ce soit l'IA qui nous génère le truc et qu'on sache l'adapter, bah, très bien. Si en première intention, on se dit, bah, j'ai pas besoin de comprendre parce que l'IA va me fournir, là, on a un souci. Et du coup, pour moi, c'est là où il faut vraiment faire une éducation là-dessus. Et au final, enfin, qu'ils me rendent un truc fait par ChatGPT ou pas, je peux le détecter si c'est très maladroit en plus. Grosso modo, les personnes qui le font de manière maladroite, bon, bah, ça se voit facilement. Les personnes qui le font de manière intelligente, pour moi, c'est qu'elles ont compris. En tout cas, sur la partie développement, je ne dis pas que sur d'autres domaines, c'est le cas, mais sur la partie développement informatique, s'ils arrivent à l'utiliser de manière intelligente, ça ne me gêne pas outre mesure.
Et est-ce que tu penses que dans les années à venir, dans l'informatique ou d'autres domaines, sur un CV, ça sera une véritable compétence de dire, bah voilà, je suis certifié ChatGPT, Copilot, comme on peut l'être en Java, en Python, en base de données ou... Est-ce que vraiment tu penses que demain, ça va être une compétence indispensable qu'on va avoir comme il y a 20 ans, expert bureautique, je sais utiliser la suite Office ou une autre? C'est vraiment quelque chose qui va se développer pour toi dans les mois, les années à venir?
De là à dire que ça sera indispensable, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul. Enfin, moi, je me sens pas à l'aise de me prononcer définitivement sur le côté indispensable. Par contre, on voit déjà actuellement qu'effectivement, il y a des formations qui se développent autour de la capacité à écrire les fameux prompts, donc des phrases qu'on donne pour interroger l'IA. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, oui, qui va quand même prendre de l'importance. Et qui va permettre en fait de gagner du temps et d'utiliser intelligemment ces outils. Donc oui, ça va être des compétences, je pense que les développeurs notamment vont être amenés à creuser.
Et pour toi, alors, personnellement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu prépares? On l'a vu, je l'ai présenté au début, tu es ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une slasheuse, c'est-à-dire que tu as plein de centres d'activités différents. C'est quoi? Écrire un livre, sortir une autre formation, essayer d'explorer de nouveaux domaines. Pour conclure, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes projets dans les semaines, les mois qui viennent?
Moi, je suis très occupée par un projet à l'ENI, donc avec 3IL, l'école d'ingénieurs, dont on vient d'ouvrir un cursus sur le campus de Nantes. Donc, c'est mon principal projet en ce moment de monter tous les nouveaux cours. Justement, l'année prochaine, il y a un cours data science avec beaucoup d'heures de cours à monter, donc je pense que ça va être mon gros projet des mois à venir. Je suis lancée sur donner des cours de maths aussi, donc ça m'occupe pas mal. Donc, je pense que si je dois résumer, mes projets pour les prochains mois, c'est principalement un investissement sur l'aspect pédagogique qui est ce qui me fait vibrer en ce moment.
Eh bien, on pourra suivre ça à la fois sur le site de l'ENI, mais également sur ton profil pour ceux que ça intéresse sur LinkedIn, etc. Il y a aussi quelques conférences sur Internet où on peut voir exactement que tu expliques de très très belles choses. Moi, j'ai adoré une dernière conférence que tu as fait où justement tu parlais de l'IA et de la manière de câbler les données en parlant des chiens et des chats et en disant qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on met en place, hein, parce que sinon, ben, on peut faire confiance à l'IA et ne pas avoir les résultats escomptés. On mettra les liens pour que les gens puissent aller voir ce que tu as raconté. Marie, je te remercie beaucoup pour cet échange.
Bah, merci à toi.
Et voilà, c'est terminé pour cet épisode d'Horizon Tech by ENI. Nous vous remercions pour votre écoute et si vous appréciez cet épisode ou ce podcast en général, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel invité, une nouvelle histoire extraordinaire dans Horizon Tech by ENI.